Merci beaucoup Virginie pour cette présentation très claire et très synthétique hein, de la Fanzinothèque. Bon, de toute façon, il y aura tout au long de la journée, il y aura possibilité de poser des questions et d'interroger voilà, les acteurs de l'institution et de la scène, évidemment. On va enchaîner rapidement avec la présentation du projet PIND. Solveig et moi, on va essayer de vous présenter ça de manière assez synthétique. Et puis, on va d'abord se présenter. Bon, je me présente en premier. C'est pas très galant, mais bon. Donc voilà, je suis Luc Robben. C'est pas galant du tout. Mais comme après, je vais céder le micro à Solveig, ça sera techniquement, c'est plus logique. Voilà, donc je suis Luc Robben, professeur à l'Université de Bordeaux, je suis historien, je suis aussi musicien, guitariste du groupe bordelais Strychnine et du groupe parisien Arnaud Futur. Voilà. Et avec Solveig, nous portons ce projet depuis presque 5 ans et il est financé depuis 2 ans, un petit peu financé depuis 2 ans. Solveig, à toi la parole.
Voilà, donc bonjour à tous, moi je suis Solveig Serre, je suis chercheur au CNRS, historienne et musicologue, et donc ça fait 5 ans qu'avec Luc on porte ce projet qui a vraiment pris de l'ampleur quand on a eu du financement il y a 2 ans, et aujourd'hui c'est la 21e journée d'études et de rencontres qui a lieu, donc on en a presque une par mois, sauf pendant les vacances, donc on commence à avoir une vue un peu, pas encore complète, mais un peu nette du territoire et de la France et de ses particularités locales, voilà. Et on remercie beaucoup la Fanzinothèque de nous accueillir aujourd'hui dans de si bonnes conditions, parce qu'on est reçus comme des rois dans cet espace qui est assez confortable. Voilà. Alors, on va vous présenter brièvement notre projet. C'est une présentation globale. Je pense qu'ici, vous savez tous ce qu'est le punk, mais il y a des fois, les gens ne connaissent même pas le mot. Donc, on essaie de s'adresser à tout le monde. Au tournant des années 75-76, des radicalités sonores et rythmiques vont se mettre à embraser subitement le monde occidental. On est dans un contexte de crise qui marque la fin de la croissance d'après-guerre avec les chocs pétroliers de 73 puis de 79, et une multitude de formations musicales, essentiellement blanches, vont être appelé par les médias, par l'industrie musicale, ou s'autoproclamer punk, un mot ancien qui est un mot argotique anglais qui signifie donc voyou, vaurien, prostitué, pourri, donc quelque chose de pas très recommandable, et qui appartient à tous ces jurons anglais en un mot, fuck, shit et punk. Voilà. Alors le punk, on pense avec Luc que c'est vraiment la dernière avant-garde du XXe siècle, avec après le dadaïsme, le situationnisme, et le punk adosse sa partition à la critique de l'establishment, Anarchy in the UK, hein, pour reprendre le titre des Sex Pistols, et refuse toute forme d'autorité. Les groupes punk vont inscrire leur désespoir dans la provocation et l'absence de perspective, et ça c'est intéressant parce que pendant 40 ans on peut en rediscuter aujourd'hui de cette absence de perspective pour un mouvement qui va finir par durer et dont le grand credo est No Future. Et par sa philosophie du do it yourself, là on y est en plein là avec le fais-le toi-même, débrouille-toi, t'as pas les conditions de créer, alors tu prends les moyens de créer toi-même, le punk va vraiment irriguer toute la scène alternative dans les manières de faire, les manières de produire, de s'autoproduire, etc. Et alors j'avance parce que c'est pas ça que je voulais montrer, c'est ça. Et bien au-delà de l'épicentre occidental blanc dont il était l'origine, aujourd'hui, le punk se diffuse dans le monde entier avec des revendications extrêmement fortes. Là, j'ai pris un article du Monde en janvier 2012. C'est en Indonésie. Plus de 60 punks ont été arrêtés, frappés et emmenés de force dans une école située à 60 km de la ville d'Aceh pour y être rééduqués, c'est-à-dire rasés, mis dans le ruisseau, emprisonnés parce qu'ils étaient punks. Donc on voit quand même que ça n'a pas tout à fait les mêmes conséquences que d'être punk sous la France de Giscard.
Bon, vous avez vaguement reconnu, enfin pour ceux qui ont l'oreille fine, Get Back à l'époque sur la pochette Back B-A-Q-E, Get Back, reprise des Beatles, mais reprise très corrosive, hein, puisque dans le texte, Star Shooter conspue les Beatles, hein, on veut plus de cette musique de merde. C'est un exemple parmi d'autres, hein, de la production de 77 en France, avec cette référence aux Beatles, hein, au monument doré à leur fin qu'on va égratigner évidemment. Dans le refus de l'establishment, c'est le refus de l'establishment politique et social, mais c'est aussi le refus de toutes les musiques établies. Hein, alors pas seulement la prog, mais également évidemment toutes les références de la pop musique, dont on estime à l'époque qu'elles sont vendues au système et vendues au marché, hein, dont les Beatles.
Je passe rapidement. Alors nous, ce qui nous intéresse, je le mets en fond, comme il n'y a pas de son, je crois que c'est même sous-titré, mais de toute façon, ce n'est pas le son qui importe. Donc nous, on est dans la France de Giscard, hein, au milieu des années 70. Donc on est dans la France de Giscard d'Estaing, qui se caractérise par l'activisme des minorités agissantes, mouvement de libération des femmes, défense des homosexuels, groupe d'intervention des prisons autour de Michel Foucault, et la morosité ambiante liée à la crise économique, à la hausse du chômage, et aux désillusions du Peace and Love, en fait, qui a montré ses limites. Alors, sous Valéry Giscard d'Estaing, l'explosion punk est marquée dès l'été 76 par le premier festival punk au monde de Mont-de-Marsan. Donc, vous voyez un extrait d'un petit fanzine, ça c'est l'affiche, et un extrait de fanzine Où est Mont-de-Marsan partout en France.
Un fanzine, c'est l'écho des sauvages. Il a été réédité il n'y a pas longtemps, en fait. C'est un fanzine qui date en deux temps, 76-77, qui avait été créé par des lycéens autour du festival, des lycéens qui avaient assisté au festival lui-même.
Voilà, donc là, on vous a mis quelques photos de Mont-de-Marsan, c'est dans les Landes, Michel, pour toi qui sors.
Et à l'époque, dans le fanzine, c'est très marrant, parce qu'une carte de France, où est Mont-de-Marsan, et Mont-de-Marsan est partout, et le punk est partout, voilà, il y a cette espèce de slogan. Donc on est sur la première génération punk.
Tu peux, je te laisse continuer. Hop.
Voilà, alors... Pourquoi la photo de Best en 78? Parce que pour beaucoup, on a considéré que la première génération, enfin le punk en l'occurrence, l'aventure punk s'arrêtait en 78 à la séparation des Pistols, hein, très symboliquement. En fait, le projet Pain essaye de déconstruire cette vision, puisque très paradoxalement, et quoique le slogan ait été « pas de futur, no future », 40 ans plus tard, il y a toujours des punks. Donc ça invite... quand même à poser la question de savoir comment ce mouvement s'est réinventé sur 40 ans, hein, puisque on a des punks en 76, on en a toujours aujourd'hui. Alors, on essaye de regarder cette question des générations, hein. On vient d'évoquer la première génération, dans le contexte des années 80, et parce qu'il y a un contexte politique notamment extrêmement différent, l'émergence du néolibéralisme, on a mis Margaret Thatcher et puis Reagan évidemment comme symbole, hein, des années 80, de ces nouvelles politiques et des réactions de résistance au cours desquelles le punk s'est réinventé avec deux exemples très, très classiques, finalement, aujourd'hui, quand on en discute, les Dead Kennedys aux États-Unis, un mouvement radical, et puis Crass en Angleterre. Alors, ce qui est intéressant, puisqu'on est quand même sur l'histoire de la scène punk en France, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe dans ces années 80. Dans les années 80, élection de Mitterrand en 81, mais très vite, virage de la rigueur, hein, souvenez-vous, pour les plus anciens, déception extrêmement rapide, 83, et puis en même temps, montée du Front National, hein, pas faire tout le détail, hein, sociopolitique du moment, mais émergence de mouvements antiracistes du type « touche pas à mon pote », etc. On se souvient de l'affaire Malik Houssekine, dramatique. Bon, c'est dans ce contexte-là qu'on va voir émerger ou se dessiner une deuxième génération punk beaucoup plus politisée. Alors, politisée non plus seulement au sens social du terme, du refus de la société, du refus de l'establishment, mais politisé au sens politique-politicienne du terme. Si on prend ne serait-ce que le groupe Berrurier Noir qui va émerger dans ces années 80, un des slogans, ça va être « La jeunesse emmerde le Front National ». Et on a tout de suite une lecture différente de ce que peut être le punk, avec, encore une fois, un investissement politique beaucoup plus défini. Et une troisième génération, tout ça peut se discuter, parce qu'après tout, on est encore sur les débuts du projet, mais une troisième génération, dans le contexte des années 90-2000, de mondialisation, d'émergence de l'Internet, avec des segments du punk qui vont émerger de type straight edge, par exemple, des nouvelles thématiques... une thématique qui était impensable dans les années 70 pour le punk, c'était l'écologie, par exemple. Hein, je rappelle que 76-77, on est sur une espèce de fuite en avant. Hein, fuite en avant, pas de futur. Vous savez, 90-2000 et jusqu'à aujourd'hui, le message du punk s'est progressivement transformé. On est passé de l'absence de futur à, pour le dire très vite,
comment envisageons-nous le futur, quel futur avons-nous envie de construire, et notamment à partir des marges. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire sur cette espèce de déclinaison et de réinvention du punk. Alors à partir de là, hein, parce qu'on a brossé à c'est de contextualiser à grands traits, le projet, on l'a pensé autour de problématiques spécifiques.
Alors, un projet, pourquoi faire ? La première chose qui nous paraissait très importante quand on a commencé à travailler avec Luc, c'était ce qu'on a appelé casser les formes d'illégitimité de l'objet. C'est-à-dire, pareil, on a pris des grands traits, mais dans la société, donc si vous demandez ce que c'est un punk, en fait, c'est l'image que je vous mets là. Un punk, c'est un type avec un chien qui mendie devant la gare, bon, ou un char, c'est plus rare. Et on trouve ces espèces de préjugés sociaux très très dès le début de la période. On vous met juste un extrait parce que le son est pas bon, mais c'est Gérard Rolls qui parle du festival punk de Mont-de-Marsan en 76. Bon, vous connaissez sûrement tous, je sais pas, je suis désolée, ça marche pas aujourd'hui, la vidéo de Gérard Rolls qui explique que c'est quoi un punk, si on a un clou planté dans la joue, si on a une croix gammée, si on a l'air paumé, on participera forcément au festival punk de Mont-de-Marsan. En fait, c'est un extrait qu'on retrouve très très facilement sur internet. Donc l'idée, c'était à la fois de déconstruire l'image du punk dans la société, et puis, alors on vous raconte même pas à l'université comment le punk est perçu, et comment les gens qui travaillent sur le punk sont perçus à l'université. Ça contamine, voilà, comme si un chercheur qui travaille sur le hooliganisme, il fallait qu'il soit dans un stade en train de taper les autres. Un punk, voilà, c'est un peu... Donc l'idée, c'était vraiment de casser à travers un travail rigoureux et sérieux, de considérer le punk comme un objet de recherche parmi d'autres, pas plus ou pas moins original, et d'essayer de faire progresser la connaissance là-dessus et donc les préjugés. La deuxième chose qui nous paraissait importante, c'était ce qu'on a appelé préserver une mémoire en péril, parce qu'on s'est vite rendu compte que, en tout cas, toute la génération historique, 76-78, enfin en tout cas une grande partie était très fragile à cause des conditions de vie instables, on va dire, et commençait à s'éteindre petit à petit.
Mais la génération des années 80 aussi.
Hein. Et la génération des années 80. Et du coup, il nous semblait important de faire ce travail d'archives rapidement, parce qu'on s'est dit que sinon, ben, les archives, elles partent à la benne. Les familles, elles se retrouvent avec des documents, elles ne comprennent pas trop ce que ça signifie, elles les jettent. Et que si on ne collectait pas, maintenant, en fait, c'est une histoire qu'on ne pourrait plus écrire, vu qu'il n'y aurait pas de source. Donc c'est quelque chose qui nous... C'est pour ça aussi qu'on va vite dans le projet, parce qu'on a besoin de collecter maintenant et rapidement pour arriver à écrire cette histoire. Alors là, on y reviendra tout à l'heure brièvement, mais voilà ce qu'on fait des archives punk. On les regarde, on les range, on les trie et on essaie de faire des fonds d'archives qui, on l'espère un jour, seront un peu comme à la Fanzino, consultables par ceux qui s'intéressent à cette histoire. Et enfin, la dernière chose, c'était de placer la question de la musique au cœur de l'objet. On en parlait tout à l'heure avec David, je crois, Pio, notamment parce que les anglo-saxons, il y a eu beaucoup de travaux sur le punk dans les pays anglo-saxons, mais les anglo-saxons analysent beaucoup le punk uniquement au prisme du politique. Donc, par exemple, le pogo, c'est en fait c'est une espèce de déferlement, c'est un combat politique qui se rejoue pendant la musique, etc. Donc, toute cette vision politique contamine tous les travaux sur le punk. Et nous, en tant que musiciens, personnes travaillant sur la musique, il nous semblait quand même que c'était important dans le cas du punk de remettre la musique au centre, que le punk c'était une émotion musicale très spéciale, que nous on pense que si on pogote c'est parce qu'il y a un son spécial, un rythme spécial, peut-être des textes spéciaux, beaucoup plus que d'aller en découdre et régler ses comptes politiques pendant un pogo. Voilà, donc ce qu'on veut vraiment faire dans ce projet, c'est replacer la musique et le punk, la musique punk au centre du punk, et après évidemment découle tout un tas de choses hors de la musique.
Alors, voilà. La deuxième chose, c'est que on a choisi d'aborder le projet à partir de la notion de scène qui permettait d'envisager évidemment cette musique et la production de la musique non seulement sous l'angle des groupes, hein, des musiciens au premier sens du terme, mais aussi parce que une scène, c'est un ensemble d'acteurs mis en réseau, hein, c'est aussi des publics. C'est aussi des magasins indépendants, c'est aussi des labels, c'est aussi des fanzines, des fanzineurs, etc., etc. Donc la notion de scène permet de regarder, c'est un prisme très très intéressant pour regarder de quelle manière la musique est produite et les discours, de quelle manière les discours sur la musique sont produits. Voilà.
Alors là, on va aller très vite parce que c'est plutôt du détail pour nous. On a structuré notre projet autour de 4 grands chantiers de recherche. Le premier, c'est le temps. Donc la question centrale, c'est comment une culture musicale s'inscrit-elle dans le temps, avec tous les paradoxes que c'était nos futurs et en fait ça dure. Donc ça, c'est un vrai paradoxe pour nous. Donc pour ça, on s'intéresse à la fois, donc là on vous a mis trois grandes générations en France, donc Strychnine, les Berruriers et les Tagada Jones. On voit bien qu'il y a des générations différentes, à des périodes différentes, avec des textes différents, des sons différents. Voilà, donc l'idée c'était de s'interroger sur justement ces générations et aussi ce tuilage générationnel. Voilà, par exemple, sur cette image, on voit bien qu'il y a des looks qui correspondent à des générations aussi, que les gens en 78 portent pas la crête comme la génération de 80, ni ont pas de dread comme ceux des années 2000, par exemple. Donc, du coup, voilà, l'idée, c'était vraiment de s'interroger sur...
Le punk 77, dessiné par Cabu, qui vaut quand même son...
Voilà. La deuxième chose, et ça rejoint ce qu'on vous disait tout à l'heure sur les archives, c'est les mémoires du punk. Donc, on vous a mis la vieillesse en merde, le Front National. Les gens qui avaient 16 ans en 76... ils sont pas tous morts, il y en a qui continuent à être là, et donc ils ont vieilli. Donc comment on fait pour vieillir dans une musique de jeunes, pour porter des choses qui ont évolué, etc. Donc tout un chantier.
Très intéressant, parce qu'on voit beaucoup d'entretiens, c'est aussi comment ces mémoires cohabitent, comment les discours sur le punk, la manière de se remémorer, de se représenter ce qu'on a vécu, comment on se représente le punk, génération après génération, et comment on le définit, comment ces mémoires peuvent éventuellement entrer en conflit. C'est quelque chose d'assez fondamental. Voilà, sur la définition même du punk, ou sur les événements emblématiques, ou sur le vécu, ou sur ce qui est un vrai ou un faux punk, etc., etc. Voilà, tout ce que j'évoque sont des exemples qu'on a rencontrés dans le discours des punks eux-mêmes. Bon, quand ils parlent de punk d'appartement, pour ceux qui vivent en squat, etc. Donc la mémoire, c'est ça. C'est regarder un petit peu comment, à partir d'un matériau très spécifique, on peut aussi construire l'histoire. Évidemment, avec beaucoup de prudence d'un point de vue méthodologique. Alors, le deuxième grand chantier, c'est le travail autour de l'espace. Comment cette culture musicale, comment cette musique s'inscrit dans l'espace ? Alors, il y avait énormément d'enjeux autour de ce simple mot d'espace, parce que, évidemment, il y a la France et le reste du monde, il y a des frontières, il y a des porosités, il y a probablement des transferts culturels. Est-ce que le punk, c'est simplement une pâle copie de ce que font les anglo-américains ? Est-ce qu'il y a une production, on va dire, nationale, entre guillemets, spécifique ? De quelle manière les groupes français ont pu aussi, et dès le début, avoir une influence notable en Angleterre ? Je rappelle que Metal Urbain est allé signer chez Rough Trade, a vécu en Angleterre. Des groupes comme Little Bob tournaient avant même qu'on parle de punk, tournaient et ont influencé beaucoup de groupes de pub rock, devenus des groupes de punk en Angleterre. Donc cette question des transferts culturels, l'espace, faut la voir sous l'angle dynamique. Après, regarder aussi comment cette culture peut se décliner, c'est-à-dire que bon, est-ce qu'être punk dans la capitale, c'est la même chose qu'être punk en Bretagne ou au Pays Basque ? Probablement non, avec un rapport à l'identité locale différent, à la politique, à des postures idéologiques différentes. Donc comment se vit la musique localement ? Comment elle s'hybride ? Il suffit de regarder un petit peu ce que font aujourd'hui les Ramoneurs de Menhir, avec Laurent des Berrues, pour avoir une petite idée de ce que peut être un punk bretonnant, d'une certaine manière. Bon. Donc la question des transferts et des frontières, je viens de l'exposer très rapidement. On va dans quelques temps aller au Pays Basque. Et je nous prévois une belle journée d'études sur des enjeux à la fois culturels, musicaux et politiques et idéologiques assez fondamentaux. On est en train de préparer ça. Bon, on ne sait pas trop quand ça va avoir lieu. Ça devait avoir lieu au printemps, mais ça a un petit peu bougé. Voilà. Alors, le troisième chantier, c'est travailler autour des systèmes de représentation. Tu veux que je continue ?
Oui, j'y vais. Donc, deux questions. Comment la scène punk est-elle représentée ? Et comment se représente-t-elle à elle-même ? Alors, comment elle est représentée ? C'est toute la question de la médiation et de la médiatisation, à la fois dans les médias officiels et dans les médias non officiels, dans les fanzines, évidemment. La deuxième chose, c'est donc comment la scène se représente à elle-même, c'est la cohérence dans l'anarchie. Comment, en fait, ça peut donner l'impression d'être extrêmement fouillis de l'extérieur, mais en fait, il y a des choses très cohérentes qui se reproduisent entre chaque génération. Par exemple, on avait, lors d'une journée d'études, on s'était intéressé aux pochettes d'albums, et on avait vu que l'esthétique des pochettes correspond vraiment, les périodes d'esthétique des pochettes recoupent vraiment les différences de sons musicaux en fonction des périodes, en fait. Donc, en gros, on peut identifier une musique, dater une musique punk à partir de son matériel sonore, mais ça correspond exactement aussi à une esthétique donnée. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire coïncider tous ces systèmes de cohérence et de leur donner un sens.
Là, Alors on a mis un exemple qui est l'émergence de la crête, par exemple, le punk à crête. Et d'ailleurs, l'image de gauche, est de mémoire, c'est un extrait de... Oui, c'est New Wave, c'est marqué. Voilà. Avec une hypothèse peut-être sur cette esthétique par rapport au film Taxi Driver. Bon, on pourra en discuter.
Alors le dernier chantier, c'est celui sur la violence. Tout à l'heure, par exemple, on parlait avec Michel Dupogo, il dit « moi j'y vais parce que j'ai envie d'être violent ». Voilà. Donc c'est tout ce chantier sur la violence, en gros.
Moi je me rappelle de Julien Dupogo où, je pense à Moody, de Les Bouffons, au groupe de New York, à côté, on avait quoi, 16, 17 ans, 18 ans, qui perd ses lunettes.
Alors, c'est exactement... Alors, Fallait nous laisser finir parce que c'est exactement ça qu'on dit. C'est de la violence qui est parfaitement régulée et codifiée, qu'un pogo c'est tout sauf dangereux. C'est exactement ce qu'on allait dire. Mais vu de l'extérieur, la violence c'est quelque chose qui est hyper présent, que ce soit...
Parce qu'il y a énormément de gens qui se croient peuls ou quoi que ce soit et qui estiment que le pogo c'est violent, donc je vais mettre des coups. Et le nombre de gens qu'on a pu voir, en général on est viré, hein.
Mais on est entièrement d'accord avec toi.
On est entièrement d'accord.
C'est exactement ce qu'on vient de rendre un article.
On vient de rendre un article sur des enquêtes justement sur le terrain et c'est exactement ce qu'on montre.
Ce qu'il y a qui peut y avoir, c'est sur la définition même du punk par rapport aux mouvements de Sex Pistols, encore faut-il lire.
On y viendra après, on termine et on en discutera après. On en discutera après.
Donc tout ce chantier sur la violence, justement, donc la violence des émotions, on avait pris une photo de Christophe qui est par là. Donc sur la violence des émotions, sur la violence infligée au corps avec tout ce qui est marquage, tatouage, piercing, etc. Ce que ça renvoie à l'autre qui n'est pas familier, qui ne connaît pas comme image, et aussi au genre, parce que ce qu'on essaie de démontrer, c'est que la scène punk, le paradoxe, c'est qu'elle se veut ouverte, mais qu'en réalité, vous verrez combien il y a de femmes qui viennent parler aujourd'hui, comme à toutes nos journées d'études, c'est plutôt un espace qui reproduit en fait les règles de la domination masculine de manière assez sidérante et assez parfaite. Voilà. Donc ça aussi, c'est une vraie question. Alors vous avez compris, notre projet il est organisé autour de journées d'études et de rencontres comme celle auxquelles on est là aujourd'hui, donc c'est la 21e. Déjà, il y a à la fois des communications scientifiques dans nos journées, à la fois des tables rondes avec les acteurs, ça nous permet de... En fait c'est que la première étape du travail pour nous, ça nous permet de tisser des liens, souvent il y a des gens qui se revoient qui ne s'est pas vu depuis 35 ans, et ensuite de revenir derrière pour susciter de l'archive, pour susciter un travail après scientifique de terrain de notre part. Depuis cette année, on a aussi un séminaire méthodologique, alors plutôt à destination de ce qu'on fait, de la recherche, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des chercheurs qui peuvent parler, plutôt pour s'interroger sur nos pratiques à nous en tant que chercheurs et membres du milieu, on va dire, comment on fait pour se positionner face à ces objets qui ne sont pas forcément faciles, est-ce qu'on peut être à la fois guitariste et chercheur, quand on dit, comment le dire, etc. Donc c'était vraiment pour se poser toutes ces questions méthodologiques qui sont finalement assez importantes parce qu'il y a aussi peu de distance à l'objet, même en termes de temps, on travaille sur de l'ultra contemporain, et donc on travaille aussi sur nous, donc il fallait aussi résoudre tout ça. Alors notre équipe, c'est une équipe qui est mixte, très interdisciplinaire. Les chercheurs de notre équipe viennent de beaucoup d'horizons. Il y en a un même qui travaillait sur les récifs coralliens, qui sont des géologues. On a des anthropologues, des historiens d'art, des historiens, des musicologues, des littéraires. Et au sein de cette équipe, il y a aussi des acteurs de la scène qui nous aident beaucoup pour le travail de réseau, qui nous mettent en lien avec... toute cette scène et qui nous permettent de créer des conditions idéales pour notre travail. Notre projet, il y a aussi des jeunes dedans. On a des étudiants qui travaillent sur des sujets. Par exemple, celui qu'on voit en photo, il travaille sur le vieillissement de la scène punk à Paris. Donc, il fait beaucoup d'entretiens avec les gens qui ont vieilli dans le punk et il s'interroge sur comment on vieillit. Donc c'est un projet de recherche qui a pour caractéristique d'être collaboratif. Là, on voit derrière... Il y a Laurence, Magali et Michel qui sont là présents, qui étaient en train de peindre, en fait, de faire une performance pendant qu'un anthropologue faisait de la science, on va dire, devant. Il y a aussi de la musique dans notre projet et des murs de fanzines, comme celui qui a... Ça, c'était à Caen. Voilà. On fait aussi des expositions photos avec les photographes qui nous suivent et qui, après, mettent en valeur ce qu'ils ont fait. On a un travail important de collecte d'archives qu'on aimerait bien développer. Donc ça, vous voyez les archives, c'est les archives d'une radio libre toulousaine qui s'appelle Radio Éphémère, qui nous ont confié toutes leurs archives. Donc on les a amenées dans mon bureau. Pierre Rabou les a triées. On leur a rendu l'excédent qui ne rentrait pas dans le cadre de qu'est-ce que c'est qu'une archive. Et on les a cotées, cataloguées. Puis on espère bien qu'un jour, il y aura des gens qui viendront travailler dessus, parce que pour l'instant, on n'a pas le temps. Et je continue, je finis. Pour finir, on a une base de données collaborative. Donc tout le monde peut rentrer les données sur son propre groupe ou sur les autres groupes. On l'a conçue pour éviter aussi tous les problèmes. Il y en a qui n'aiment pas beaucoup donner leur nom, s'identifier. Donc on peut juste générer un ticket à la journée. Il n'y a pas besoin de donner son nom. On n'est pas fliqué dans cette base de données. Et ça permet, on aimerait bien qu'à terme, elle soit extrêmement riche, extrêmement nourrie pour montrer toute la variété de cette scène punk en France pendant 40 ans. Et pour finir, on a un site internet qui marche depuis un an où vous pouvez retrouver toutes les actualités. Là, par exemple, on va à Issy-les-Moulineaux en octobre, à Nantes en novembre, à Bordeaux en décembre. Et puis toute l'année, on essaie à la fois de couvrir le territoire et des grandes thématiques qui nous intéressent. Voilà. Alors, pour finir, PIND, c'est quoi ?
L'acronyme de Punk is not dead, punk pas mort.
C'est aussi le nom d'un projet de recherche consacré à l'histoire de la scène punk en France depuis 1976 jusqu'à nos jours.
Un retour vers No Future qui interroge l'existence et les conditions d'existence de la scène punk en France depuis 40 ans.
Ça parle de musique et de musiciens, d'artistes et de visuels, de la débrouille et de la vie sur scène ou au squat, d'une création en résistance à Caen, Rouen, Paris, Toulouse, Fumel, Bordeaux, Rennes, Montaigu, Lyon, Poitiers...
Ça parle des marges et d'un regard sur l'autre.
Ça parle de la vie, de la poésie et du corps, de la danse et des manches de guitare, des tatous et des marques, des filles et des garçons, de la dope et des avenirs qui en meurent, de la jeunesse et de la vieillesse qui surprend toujours en creux ceux qui pensaient ne pas survivre à nos futurs.
Ça parle de 1977 et des années 80, 90, 2000, 2010.
Ça parle d'aujourd'hui et sans doute de demain.
Ça cherche, ça discute, ça polémique, ça gueule parfois, mais toujours pour comprendre.
Bref, c'est un truc essentiel, piloté et mis en musique par des chercheurs et des acteurs de la scène.
Une équipe terrible et tellement motivée. Do it yourself, just take a look. Voilà, merci beaucoup. On peut peut-être prendre 3-4 minutes maintenant, parce qu'il y avait des interventions, des remarques. Je crois qu'il y avait une question sur ce que j'ai pu dire sur la rupture de 78. C'est une des représentations, hein, dans les acteurs qu'on interroge. Beaucoup, surtout les anciens, nous disent « Oui, bon, le punk en 78, c'était mort. Après, c'est autre chose. » Voilà.
Donc, en fait, la première chose, c'est par rapport aux Sex Pistols. Le morceau God Save the Queen... a un sens. On réduit en général le sens à nos futurs. Mais de quoi parle réellement la chanson ? Quelles sont réellement les paroles ? Comment pouvons-nous les interpréter et les analyser ? En fait, c'est extrêmement simple. Il n'y a pas de futur pour vous. C'est pas pour moi. C'est pas un discours de John Lydon qui constate simplement que lui n'a pas de futur. Lui, il a un futur. Mais pourquoi ? Il se crée son propre futur, justement parce qu'il se considère comme une fleur jetée dans une poubelle, where the flower in the dustbin, et il crée donc par lui-même sa condition d'existence. Et il rejette la société, non pas pour se rejeter lui-même, mais pour avancer et pour créer une autre société, une société différente. Et moi, personnellement, en tant que batteur des cadavres ou avant batteur dans le groupe Les Fils dans les années 80 à Poitiers, j'avais pas l'impression ou l'intention de rejeter la société et de me rejeter moi-même, mais de faire évoluer la société. Pourquoi avons-nous organisé des concerts ? Pourquoi avons-nous joué ? C'était pas parce que nous n'avions pas de futur, mais au contraire. Parce que le futur, nous le créions nous-mêmes. Nous l'avons créé.
Oui, mais quand tu parles des cadavres, tu parles des années 80 après.
Non, je parle des Fistes d'abord, le groupe dans lequel je jouais juste à Poitiers dans les années 80.
Par rapport à ce que tu dis, tu as entièrement raison. Entièrement raison. Et le texte, il n'y a plus de futur pour les rêves de l'Angleterre, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Oui. Et le problème, c'est juste que les punks en ont fait un slogan.
Et No Future est devenu un slogan. Donc en fait,
non, je pense pas justement.
Non, mais peu importe.
Ah,
non,
c'est mon interprétation. Hein.
Ouais. Mais c'est devenu, que tu le veuilles ou non, un slogan. Et c'est juste.
Et
ça,
moi, je me suis toujours battu contre après, ça parce que justement, avec tous les gens avec qui j'ai pu en parler, est-ce que être punk, c'est l'image du punk à chien tel qu'on le voit? Moi, tous les punks et tous les gens que je connais encore qui sont punks, moi je suis prof de lettres classiques, Marsu,
je vais te raconter une histoire. On a fait la journée d'études à Rennes, là, en décembre. On fait venir Thierry Terret, qui est un professeur d'université et qui était recteur à Rennes. Et voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît, il intervient, il ouvre les débats. Première chose qu'il fait, c'est ça. Dit, les punks à chien que je vois depuis ma fenêtre. Donc oui, c'est une représentation, pas la tienne, c'est une représentation sociale dominante. Donc la réponse est oui.
Alors, sociale, d'accord, mais est-ce que nous sommes là pour parler des représentations médiatiques ou est-ce que nous sommes là pour apporter une définition de ce qu'est réellement et concrètement
dit, personnellement, j'ai une petite pensée à tous ces punks qui sont abandonnés par leurs chiens au bord de l'autoroute durant l'été.
C'est un scandale. C'est que dans notre projet, on veut précisément déconstruire ce type de représentation.
D'où mon intervention.
Montrer, voilà. Ouais, mais oui, mais il faut bien écouter ce qu'on dit. Donc en fait,
c'est parce que nous pensons.
Le projet, c'est de déconstruire ce type de représentation précisément. Bah, le punk à chien. C'est une image parmi d'autres, mais c'est pas.
Voilà. Ouais, parce que moi, de manière existentielle. Le nombre de concerts qu'on a pu faire avec les cadavres, où systématiquement les punks à chien, on les voit venir, en général, ils restent dehors. Il y a trois groupes.
Le futur, c'est un joli.
Genre, on joue, il y a trois groupes. Les deux premiers groupes, les punks à chien, justement.
Il ne faut pas se focaliser là-dessus, c'est une image.
Non, mais justement. C'est une question de définition, ce qui fait.
Justement, la définition, elle n'est pas dans le futur.
J'ai l'impression qu'on n'a pas été compris.
Elle n'est pas dans le futur. Cher monsieur ex-punk futur commercial,
Michel.
Le punk qui vit au jour le jour, alors, c'est qu'il se pose pas de questions, à vrai dire.
On va pas passer la nuit
voilà,
dessus, mais
c'est
on a pris cet exemple parmi d'autres pour dire quels sont les discours de la société sur le punk. Voilà un discours parmi d'autres. C'est pas
le nôtre.
Justement. Après Bertrand, on peut rediscuter du No Future. Enfin, quand tu lis tous les textes de cette époque, c'est quand même une hymne à la
défense.
Regarde
les photos. Le nombre de mecs qui avaient bombé leur perf avec les clous, avec No Future dans le dos. On est d'accord avec toi.
D'accord.
Mais c'est devenu un slogan, presque une marque.
Ouais, c'est devenu une mode. Hein. Ce qui fait que finalement, je sais pas, s'habiller.
T'es d'accord avec moi,
je me suis un peu déguisé ce matin en venant parce que je vais pas je suis prof de lettres classiques, donc je vais pas en cours comme ça. Effectivement, bon, en fait, j'ai mis simplement les tenues que je mets quand je fais de la scène, quoi. Et bon, ça fait quelques années, j'en fais plus depuis 2013.
On sait pas.
Mais en attendant, ce qu'on peut voir. C'est que quoi, ce que moi j'observe, c'est que tous les punks qui pouvaient avoir des discours hyper extrémistes à l'époque, combien il en reste finalement qui sont encore.
Les autres, ils sont morts.
Ils sont morts socialement, c'est-à-dire quoi? Ils sont complètement rangés.
Ils sont vraiment morts de la défonce, de tout ça. Donc ils ont quand même mené jusqu'au bout leur.
Est-ce que être punk, c'est se défoncer? C'est être punk à chien? C'est quoi finalement? Sinon, justement. Le do it yourself, à savoir être soi-même et développer son
c'est
propre.
C'est une des définitions, mais c'est pas la seule. C'est quelque chose qui est multiple.
Et puis, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu construis un discours aujourd'hui, et je doute pas de ta sincérité, mais la plupart des témoins, et c'est le problème quand tu travailles sur la mémoire, c'est qu'ils ont une posture. Voilà. Regarder dans le rétroviseur, c'est pas évident. Et souvent, on analyse ce qu'on a fait par rapport à ce qu'on est au moment où on parle. Voilà. Et la question du No Future, quand tu as 15 ans, 20 ans, par exemple, pour reprendre celle-là, c'est quelque chose que tu peux éventuellement vivre. Tu peux être dans la dope, pas forcément y passer ta vie, mais ça peut être un instant. On a une tendance à reconstruire aussi, à reconstruire ses positions, réinventer un petit peu son passé. Je ne mets pas du tout en doute ta sincérité. Hein. C'est pas la question, mais quand tu dis qu'est-ce que c'est être punk, ben. Aujourd'hui, tu en parles aujourd'hui. Le jeune homme que tu as été, sans doute, à 20 ans dans le groupe, avait peut-être une vision légèrement différente. ton corps, ton esprit. Non, mais c'est extrêmement compliqué. Et c'est un des obstacles sur le projet, c'est aussi ça. Quand on parle de mémoire, c'est travailler sur la mémoire qui est un matériau assez brûlant, en fait, hein, assez compliqué. Oui.
Je voudrais raconter une anecdote sur le côté vrai punk, faux punk. Alors moi j'ai écouté Case Product à 14 ans, donc le mouvement punk, je le connais bien, puisque je le suis depuis 35 ans. Je l'ai bien connu à Bordeaux dans les années 80, 82, 83, 84, etc. etc. Et un jour, je suis allée en Angleterre, et je suis allée à Sheffield, dans le nord de l'Angleterre. Et j'avais une image du punk un peu comme lui, et puis je le vivais aussi. Je reconnais d'ailleurs que le pogo reste quelque chose de très bienveillant envers les uns, envers les autres. Et j'ai jamais connu autant de bienveillance qu'avec les punks, d'ailleurs. Et je vais en Angleterre à Sheffield, dans le Nord, voilà, berceau de Cabaret Voltaire, Hawkwind, etc. Et j'étais chez une copine qui faisait de l'art vidéo. Et on rentre chez elle, et elle a un voisin, et on croise son voisin. Alors son voisin, il a un pantalon zippé, il a les cheveux complètement hirsutes, il a le look d'un punk. Et il est tout souriant, il ouvre un sachet en plastique, et il a plein de pelotes de laine de couleur. Et il dit, il est trop content, il va faire un pull multicolore à son mec. Mais c'est un vrai punk, c'est un vrai punk, c'est un musicien, c'est un mec qui envoie carrément sur scène. Alors des fois, eh bien, sur le moment, moi je me suis dit, j'ai peut-être aussi une idée un peu très préconçue du punk, même pour l'avoir vécu à Bordeaux, avoir croisé pas mal de gens dans ces mouvances-là. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de dire que le mouvement punk, c'est aussi juste parfois être rebelle. Moi j'en écoute et je suis le mouvement et j'ai pas de crête sur la tête. Et ça m'arrange parce que je vois pas pourquoi faudrait toujours montrer exactement qui on est, pourquoi et ce qu'on écoute. Mais je pense qu'au niveau culturel, le mouvement punk, il a vachement évolué en 30 ans. Et alors qu'il est, je crois qu'être punk, ça serait plus balancer de la joyeuseté et combattre la morosité ambiante que de justement crier encore au No Future. Et je pense que le No Future, le message, il était surtout de dire qu'on vivait dans une société qui allait se casser la gueule. Et on en a la preuve, 30 ans après, que ce message-là reste vrai. Ouais. Alors, mais ce message-là reste.
Merci
vrai.
Pour ce témoignage. On va pas je crois qu'on a un programme assez chargé, donc on va être obligé de. Mais merci pour ce témoignage-là. Et bien sûr, ce que je disais tout à l'heure en parlant du No Future, c'était ce passage du No Future à comment réinventons-nous le futur aujourd'hui. Mais bien évidemment.
On est sur un cimetière.
Oui. Bien sûr, oui. Bah, d'où l'idée de ce travail d'histoire, parce que le punk, c'est un objet d'histoire. Et l'idée de travailler sur la manière de se réinventer. On va continuer, on est un petit peu désolé, mais c'est toujours comme ça. On prend un peu le temps de discuter et on est en retard après. On a des communications à écouter extrêmement intéressantes. Pareil, avec des temps de discussion et de réaction derrière. Hein. Alors, on va accueillir David Puot, qui est de pas très loin, en fait, qui est d'ici.
2 kilomètres.
Voilà. Qui est passé par le HESS et qui travaille à l'IRTS. C'est ça, je me trompe pas.
Et qui
voilà.
fait partie de notre équipe.
Et qui fait partie du projet PIND. Et tu vas te présenter tout seul, beaucoup mieux que je ne le fais.
Merci.